Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. L'entendez-vous, ce matraquage depuis des semaines? Ce matraquage qui fait déborder vos mails, qui inonde les écrans publicitaires, les affiches du métro, les pages d'accueil des sites de commerce en ligne. Le Black Friday, ce vendredi de remise monstrueuse. En apparence, selon une étude poussée de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation, 57% des Français interrogés déclarent qu'ils envisagent de profiter du Black Friday pour réaliser des achats, profiter de rabais prétendument extraordinaires, des rabais qui ensorcellent de plus en plus de consommateurs en ligne. Mais font-ils vraiment de bonnes affaires, ces consommateurs en quête de prix bas? Quels sont les pièges et chausse-trappes? Comment repérer les fausses remises? Comment sont fixés ces prix aguicheurs qui nous font la danse du ventre? À quoi correspondent vraiment ces promotions affichées? Comment expliquer que le Black Friday soit devenu un incontournable rite consumériste? Pourquoi certains résistent à ce rouleau compresseur? Pour nous éclairer, Nathalie Damery de l'Obsoco, Cyril Brosset, journaliste à l'UFC Q Choisir, et Julien Bugier, présentateur et rédacteur en chef de l'émission Tout compte fait sur France 2, notre complice ce matin. Et vous, que pensez-vous du Black Friday? Allez-vous céder à la tentation? Avez-vous déjà été piégé par des fausses remises en ligne? Standard ouvert au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Et puis en fin d'émission, nous évoquerons ces fausses bonnes affaires dans les rayons des supermarchés, ces produits alimentaires qui abusent de la crédulité des consommateurs à quelques semaines de Noël, des produits ultra transformés qui se font passer pour des produits traditionnels. Et puis vers 11h25, vous retrouverez la chronique Pas son genre de Julia Foyce. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Nathalie Damery.
Bonjour.
Vous êtes la présidente et la cofondatrice de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation, et vous venez de réaliser une étude très instructive sur le Black Friday. Mmh. Bonjour Cyril Brosset.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'UFC Que Choisir, chef de la rubrique Nouvelles Technologies. Bonjour Julien Bugier.
Bonjour Ali.
Journaliste à France 2, présentateur et rédacteur en chef de l'émission Tout compte fait, diffusée le samedi à 14h, et vous consacrez ce samedi votre émission au pied piège du Black Friday, et nous sommes partenaires. Alors, Black Friday signifie littéralement vendredi noir. Le Parisien nous rappelle que c'est une expression qui remonte au 19e siècle aux États-Unis. Elle fait référence au crash financier de 1863, un crash dû aux manipulations de deux hommes d'affaires pour faire grimper le prix de l'or de façon vertigineuse. Et l'administration du président Ulysses Grant évite la catastrophe et l'expression vendredi noir est restée. Plus tard, dans les années 1960, l'expression revient pour désigner les embouteillages sur les routes et dans les magasins le lendemain de la fête de Thanksgiving, qui tombe un vendredi, la fête de Thanksgiving que l'on a souvent vue au cinéma et dans les séries télé. Beaucoup d'Américains posent leur vendredi pour faire le pont et pour faire leurs achats de Noël. Et puis peu à peu, les commerçants en ont profité pour proposer de grosses remises en magasin. Nathalie Damery, c'est donc une tradition américaine récemment importée partout dans le monde, ce oui. Black Friday.
Mmh, exactement, avec aussi une dimension de revente des cadeaux offerts au moment du Thanksgiving. Ça s'est installé de façon assez spectaculaire en France, hein, pour une raison qui me semble être liée à l'agenda, c'est-à-dire les cadeaux de Noël qui se préparent à cette même époque, et le sentiment, enfin on va le voir tout à l'heure, et le sentiment que peut-être on peut réaliser des affaires tout à fait exceptionnelles et acheter à moindre coût les cadeaux.
Cyril Brosset, nous avons tous reçu quantité de mails, de SMS, nous avons été presque harcelés pour participer à ce Black Friday.
Oui, on en est tous témoins. Le nombre de publicités, de mails, de SMS, de ce que vous voulez reçus cette année dépasse vraiment ce qu'on a connu les années précédentes. En tout cas, on n'a pas fait d'études vraiment précises sur le sujet, mais on en a bien l'impression et on se rend compte que de plus en plus de consommateurs prennent ça un peu comme un harcèlement. Alors c'est vrai qu'il y en a qui pensent qu'ils vont en profiter pour faire des bonnes affaires, mais il y en a aussi qui commencent à rejeter cet événement.
Julien Bugier, ce sont des pratiques très agressives.
Oui, très agressif. D'ailleurs, il y a un amendement qui a été déposé par Delphine Bateau, écologiste, qui a été adopté lundi soir pendant la nuit en commission à l'Assemblée nationale, qui vise à interdire ces pratiques agressives et donc à interdire d'une certaine manière cette surconsommation du Black Friday. Pourquoi ? Pour deux éléments. D'abord parce que, dit-elle, et c'est vrai que ça s'entend dans l'époque actuelle, et c'est là le grand paradoxe, hein, on est dans un moment où on veut tous ralentir et on a une considération écolo, et en même temps on surconsomme comme des dingues, parfois sans en avoir vraiment le besoin. Et c'est le rabais, c'est-à-dire que c'est l'opportunité du prix bas qui fait et qui déclenche l'acte d'achat. Et puis le deuxième élément, c'est évidemment les considérations écologiques, c'est-à-dire que la consommation, ça demande de la production, ça demande de la fabrication, parfois à l'autre bout du monde, dans des conditions sociales qui parfois laissent à désirer, et avec des matériaux qui sont problématiques. On pense par exemple dans la high-tech, tous les outils qui sont utilisés pour les téléphones portables, qui sont des matières rares, qui viennent de pays parfois en guerre. Voilà, donc ça pose question.
Oui, c'est vrai qu'au niveau de l'écologie, c'est assez impressionnant. Alors, le e-commerce en lui-même peut parfois permettre de faire des économies de CO2, mais on voit bien, là, avec le Black Friday, qu'il y a vraiment une explosion, un abus, et que là, dans ce cas-là, ça devient un peu n'importe quoi.
Juste trois chiffres, Ali, sur le Black Friday. 1400 produits écoulés par minute par Amazon en une seule journée. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ça représente. 70% des Français qui disent vouloir... Pourquoi pas faire un achat à l'occasion de ce Black Friday ? Et vous parliez tout à l'heure du fait que ce rendez-vous s'installe de plus en plus dans la consommation française. C'est vrai parce que, par exemple, le panier moyen en 2017 était de 117 euros à peu près. Aujourd'hui, on parle d'un panier moyen de 230 euros attendu pour ce vendredi. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de transactions. 50 millions de transactions enregistrées le vendredi l'année passée. Donc, c'est quand même un comportement d'achat qui a des répercussions qui, effectivement, pose question.
Cette célibataire de 26 ans achète quasiment tout en ligne et en réduction. D'ailleurs, ce jour-là, un colis l'attend chez elle. À l'intérieur, des vêtements et ce petit sac.
Au final, je l'ai payé une dizaine d'euros, alors que de base, il est à 50. Et jamais j'aurais payé ça 50 euros, jamais.
En ce moment, Victoria prépare ses cadeaux pour Noël et veut offrir un casque audio à son frère qui affiche une promo inouïe.
C'est dingue parce qu'il y en a un qui a 100 euros de base et là il est à 12,34. 87% d'économie. Évidemment que ça guiche quand tu vois en rouge, en gros, réduction, même sur les sites de vêtements, c'est le bandeau avec la réduction en cours. Je pense que ça me fait un peu acheter. Je pense que ça, en tout cas, ça va provoquer le déclic.
Victoria qui témoigne dans l'émission Tout compte fait, qui participera certainement au Black Friday. Nathalie Damery, les Français vont y participer. Oui, à 57% selon l'enquête que vous publiez à l'Obsoco.
Oui. Le profil des personnes qui déclarent le plus, hein, parce qu'en réalité tout le monde est à 57%, tout le monde participe, c'est contrairement à ce que l'on dit souvent, c'est plutôt CSP+.
Ah bon ?
On va avoir les moyens de dépenser. Ouais. Donc il y a effectivement un lissage, mais avec... le profil, c'est aussi beaucoup les jeunes. On a beaucoup cette idée de jeunes très engagés dans la déconsommation. En réalité, c'est pas tout à fait juste. La notion de jeunes, enfin les milléniums, etc., ça veut pas dire grand-chose. Vous avez des jeunes, disons, avec capital culturel qui vont être plus engagés et qui vont pouvoir faire des arbitrages parce qu'ils vont avoir le choix. Et la question de la décision est importante. Et puis des jeunes qui sont moins, dotés d'un point de vue pouvoir d'achat et qui sont extrêmement consommateurs. Donc tout cela est quand même relativement ambivalent. Et les jeunes couples avec enfants. Donc c'est, voilà, le profil des crêtes, c'est jeunes, CSP+, profil avec enfants.
Et rappelez-vous ce que disait Pierre Bourdieu, la jeunesse n'existe pas.
Mais bien
il
sûr.
Existe évidemment des jeunesses.
Ouais.
Qui sont ceux qui s'opposent le plus au Black Friday ?
Alors déjà, il y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de bruit autour de la résistance, de bruit et d'action qui sont le fait des offreurs et des magasins qui sont engagés dans ces actes de résistance pour différentes raisons. Les véritables opposants, il n'y en a pas beaucoup, c'est 5-7% et encore c'est du déclaratif. Ce sont des gens qui sont particulièrement engagés dans, disons, des actes pour lutter contre le réchauffement réchauffement climatique ont des valeurs très inscrites et pour qui c'est une posture extrêmement importante et politique de résistance.
Il s'agit beaucoup de personnes seules, sans enfants, hein, qui s'opposent au Black Friday. Oui. Leurs arguments, c'est l'argument écologique en premier lieu, un argument qui rejoint la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, hein, qui met en garde contre la frénésie de consommation. Oui. Un chiffre, hein, dans la capitale, pour le Black Friday, on attend environ 2,5 millions de livraisons par jour, soit 10 fois plus que le nombre de colis quotidiens le reste de l'année.
Exactement, la logistique est particulièrement impactante, hein, pour les questions de climatique, circulation, etc. Ce qui est très étonnant dans cette question du Black Friday, c'est, comme vous le signaliez tout à l'heure, Julien, la question de l'ambivalence. En réalité, le Black Friday, ce que ça nous révèle, c'est l'ambivalence de la société. On a publié un observatoire des perspectives utopiques il n'y a pas très longtemps, qui montre que lorsqu'on interroge les Français, leur perspective utopique numéro un, c'est la question de l'écologie. En réalité, dans les comportements, c'est un peu plus compliqué, mais c'est peut-être aussi parce que les acteurs de l'offre ne sont pas suffisamment sur le devant de la scène pour proposer autre chose, du recyclage, de l'occasion, le do it yourself, etc., qui peuvent être des vraies solutions alternatives, et donc faire augmenter le nombre de personnes résistantes à cette surconsommation. On passerait de la posture très politique à une posture plus de consommation raisonnable et raisonnée.
Oui, j'ajoute, c'est assez juste, mais j'ajoute, et on parlera tout à l'heure de l'ambivalence aussi des rabais, parce que c'est important de le signaler ce matin, les rabais qui sont toujours présentés par les grandes enseignes et qui font un peu l'attrait de ces grands moments de consommation, et notamment du Black Friday. On verra tout à l'heure avec notamment l'UFC que bien souvent ces rabais sont moins importants que ce qui est affiché sur les étiquettes. Mais je voudrais simplement rebondir sur cette société de la surconsommation que les politiques et nous, les médias d'une certaine manière, on a accompagné depuis 30 ans en valorisant l'acte d'achat, en parlant de croissance systématique, en disant c'est une bonne nouvelle, l'indicateur de la consommation des ménages est en hausse. Voilà, on a accompagné ce mouvement-là. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on en atteint quand même les limites d'une certaine manière, et puis après j'arrêterai d'être l'empêcheur d'acheter en rond. Pourquoi ? Parce que le pouvoir d'achat est en berne, parce qu'il y a des considérations écolo, et que
consommer ne rend pas plus heureux.
Et que consommer ne rend pas plus heureux. Je disais tout à l'heure en coulisses, en attendant de rentrer dans le studio, on a fait croire pendant des années que le bonheur était dans le panier, et que pour être heureux, il fallait consommer. Et vous savez quoi? Eh bien, ça a participé à favoriser les achats compulsifs. Moi, je ne savais pas, mais il y a une pathologie qui touche 5% de la population mondiale, et donc française, qui s'appelle l'oniomanie, qui est un trouble du comportement, et qui fait que on achète compulsivement, voilà, je vais y arriver, le mot est un peu compliqué, et en dehors de toute considération de budget ou de porte-monnaie. Donc on se met en danger parce qu'on achète.
Nathalie Damary.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Cette façon de consommer, c'est aussi un peu son chant du cygne, hein, sur quand on voit le Black Friday, c'est-à-dire que on voit bien que c'est la fin d'un modèle qui s'épuise, d'où peut-être l'hystérie de la communication qu'il y a autour.
Et puis nous autres médias, Julien Bugier, nous contribuons à la popularité de ce Black Friday en parlant notamment ce matin et ce soir dans le téléphone sonne.
Mais je pense que voilà, on en parle de façon différente pendant des années, il y a une espèce de célébration consumériste autour du Black Friday. Voilà, ça faisait les gros titres, on s'étonnait tous, on disait oh là, c'est formidable, c'est la journée où on peut acheter pas cher et de façon assez massive. On se gargarisait de montrer ces images de gens qui courent dans les supermarchés pour acheter 3 télés. Est-ce qu'on a besoin de 3 télévisions? La jeune fille qu'on voit dans le documentaire de Tout compte fait samedi 14h et que vous avez diffusé tout à l'heure, elle a 10 sacs. Est-ce qu'on a besoin de 10 sacs à main aujourd'hui quand on a 25 ans? Voilà, c'est aussi ces questions-là qu'il faut se poser.
Allez, racontez-nous les mauvaises surprises de vos achats en ligne, lors notamment des précédents Black Friday, sur l'appli France Inter, sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Vous pouvez également appeler le standard, le 01 45 24 7000, mais en raison du mouvement de grève à Radio France, je ne pourrai lire que vos fiches. Alexia Rivière, Claire Destacan et Dimitri Hainaut m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier, et je vous propose d'écouter un titre de 1961. Cette année-là naissait Barack Obama et disparaissait Blaise Cendrars. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Zoubi zoubi zou, zoubi zoubi zou, zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou. Mon Dieu qu'ils sont doux.
On est d'accord, on va l'avoir dans la tête toute la journée. Zou, bisou, bisou de Gillian Hicks.
Ça y est.
Hein, ça y est.
Gros bisou, bisou. <Chante. rire>
Moi, je suis le genre de personne qui va voir ça et qui va dire « Oh, il est en promo, bon, bah, je l'achète alors. »
Grand bien vous fasse.
Mais je vais pas forcément me dire qu'il y avait un meilleur prix autre part. Et ouais, du coup, moi, je suis le genre de personne qui me fait avoir.
Sur France Inter.
10h22 et on s'intéresse aux vraies et surtout aux fausses promotions du commerce en ligne à l'occasion de ce fameux Black Friday en partenariat avec l'émission Tout compte fait sur France 2.
Ces promos impressionnantes ont envahi Internet. Au moment des soldes évidemment, mais aussi au cours du week-end du Black Friday. Nous sommes nombreux à faire nos achats de Noël. Pour vendre toujours plus, les sites se livrent à une surenchère d'offres commerciales qui nous accrochent. L'an dernier, ce jour de remise exceptionnelle nous a fait dépenser plus de 5 milliards d'euros. Mais ces prix barrés seraient parfois un leurre.
Au lieu de gagner 160 euros, on ne gagne que 5 euros.
Là, pour le coup, c'est prendre les gens pour les imbéciles.
Amazon, Zalando, H&M, vente privée, se sont fait épingler par la répression des fraudes. Des offres trompeuses qui prennent de plus en plus d'ampleur avec l'arrivée sur Internet de milliers de petits vendeurs qui propose des prix très alléchants.
Alors, un chiffre édifiant, selon une étude de Retail Minote CRR, 5 milliards 900 millions d'euros de dépenses prévisionnelles durant le Black Friday. Julien Bugier, je m'adresse à l'ancien journaliste économique. Le Black Friday, c'est bon pour la croissance économique?
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est sûr que c'est bon pour la croissance. Est-ce que c'est bon pour l'individu? Est-ce que c'est bon pour l'environnement? J'en suis moins sûr. Alors, ce qu'on entendait là-dedans, c'est vrai que c'est le nœud gordélien. C'est-à-dire, c'est belles promos, mais qui sont souvent des grosses arnaques. Mmh. C'est-à-dire qu'on annonce des rabais de 40%, 30%, 50% parfois, mais on s'aperçoit en fait, quand on regarde dans le détail des prix, et je pense que mon camarade de droite qui a fait une enquête à l'UFC Que Choisir sur le sujet pourra le confirmer, le nœud gordélien, c'est le prix de référence à partir duquel est calculée la réduction de prix. Et là, il y a une ambivalence, car la loi date de 2015, et cette loi, elle fait que ce prix de référence, il peut être modifié quelques jours avant les promotions, quelques jours avant le Black Friday, et donc il suffit à un opérateur ou à un vendeur en ligne d'augmenter le prix de référence quelques jours avant et on peut afficher un rabais de 50 à 40%. Voilà, donc il y a une ambivalence sur ce prix de référence et c'est ça qui est véritablement trompeur pour les Français qui veulent acheter pendant le Black Friday. C'est-à-dire qu'on a face à nous des sites internet qui proposent des réductions de 40%. En réalité, la réduction, elle est de 10%.
Cyril Brosset de l'UFC Que Choisir, rappelons que toutes ces offres alléchantes avec des rabais de 50 ou 60% ne concernent qu'un nombre de produits très limité.
Oui, en fait, nous on fait régulièrement des études sur le sujet à chaque opération commerciale et c'est ce qu'on remarque. Lors du Black Friday de l'année dernière, par exemple, on a constaté que seulement 8% des produits étaient en promotion. Et surtout, la promotion moyenne réelle n'était que de 7%. Ça veut dire que Parfois, il y en avait qui atteignaient peut-être 30-40%, mais il y en avait beaucoup qui permettaient de gagner que quelques euros. En fait, effectivement, ce prix de référence, il est très important parce que les marchands, ils prennent évidemment le prix le plus haut parce qu'ils ont le droit. Ils ont le droit de le faire. Donc, ils prennent un prix conseillé par le fabricant qui a pas forcément été appliqué par les commerçants. Alors que nous, on se base sur ce qui nous semble être le plus près de la réalité, c'est-à-dire le prix le plus bas dans le mois précédent le Black Friday. Et malgré ça, on remarque qu'il y a quand même des marchands qui augmentent les prix juste avant, qui prennent des anciens prix, etc.
Alors, lors d'une précédente opération commerciale, nommée en bon français French Days, il fallait, Cyril Brosset, s'armer de patience pour débusquer de vraies bonnes affaires.
Oui, c'est ça le problème, c'est que les promotions, elles sont si peu nombreuses qu'il faut vraiment plonger dedans pour essayer de les trouver. Et encore, c'est même pas évident parce qu'on sait pas franchement combien étaient vendus les objets avant l'opération. Et en plus, ce qu'on remarque aussi, c'est que très clairement, ces opérations, elles servent aux commerçants à écouler leur stock. C'est comme les soldes avant, sauf que là, ils les font avant Noël. Ça leur permet d'écouler leur stock. Et comme ça, en plus, ils perdent pas d'argent parce que, rassurez-vous, ils font encore de bonnes marges.
Nathalie Damery.
Oui, c'est le principe
de l'Obsoco.
C'est le principe même des soldes, effectivement. Ceci dit, toutes ces opérations, au final, ne profitent pas vraiment au commerce, puisqu'il y a un lissage. Ce qu'on a acheté aujourd'hui, on l'achètera pas plus tard. Donc il y a quelque chose là qui est pas forcément très très intéressant pour la croissance et le commerce lui-même.
Même le régulateur avoue un sentiment d'impuissance. C'est la DGCCRF. Son directeur nous dit le prix de référence, il n'est pas fixé par la réglementation à proprement parler. Il est sujet à interprétation.
Ça
veut dire qu'il n'y a pas de calcul officiel. On peut pas dire le prix de référence, il doit être celui-ci. Est-ce que ce prix de référence, il est ailleurs? Est-ce qu'il correspond à peu près à la valeur d'un produit? Or, ce prix de référence, c'est celui qui détermine le rabais. C'est ça qui va faire que on peut offrir une réduction de 40, de 30%. J'ajoute que la DGCCRF nous dit aussi qu'il y a une obligation de résultat aujourd'hui face à l'attente des consommateurs, mais nous on n'a pas de moyens. Voilà, c'est ce que nous dit le patron de la DGCCRF. Enfin, faut quand même le savoir, ils n'ont pas les moyens d'enquêter et de condamner les sites de e-commerce. Il y a eu une condamnation, c'était en 2017, où il y a 19 géants du e-commerce qui ont été condamnés. Vous savez à combien s'élève l'amende? 2,4 millions d'euros pour 19 acteurs. Vous savez ce que c'est les revenus d'Amazon en France aujourd'hui? C'est 6,5 milliards d'euros. Enfin, je veux dire, on est loin du résultat.
Oui, et tout cela participe de la défiance générale à l'égard de tout aujourd'hui qu'ont les consommateurs, et avec un point très important de défiance à l'égard du prix. On sait plus ce que c'est qu'un prix, on sait plus ce qu'est un prix juste, et donc lorsqu'on achète un produit à un prix qui semble juste du point de vue de la production, des conditions sociales de production, etc., le consommateur a le sentiment de se faire avoir. Donc c'est particulièrement délétère, cette question des prix.
Ce qu'il appelle des fausses soldes, c'est lorsque les enseignes se livrent à une manipulation des prix à l'approche des périodes de promo que peu de consommateurs imaginent. Démonstration.
On passe au cas d'un produit Cdiscount, vendu par Cdiscount. Il s'agit d'un ordinateur Lenovo. Deux semaines avant les soldes, nous avons un prix à 279,99 qui grimpe en l'espace d'une journée à 339,99. Le 27 juin, il repasse à 249,99. Nous avons une différence de seulement 30 euros, là où on veut nous faire croire qu'il y a une différence de 80 euros.
Ça donne au consommateur du coup l'impression de faire une super affaire.
Voilà, exactement. Puisque pendant 15 jours, si le consommateur surveillait un peu son produit, il a pu croire que le produit était vraiment à ce prix-là.
Exactement.
Alors que, avec un historique de prix un peu plus poussé, en ouvrant la fenêtre un peu plus, on se rend compte que, non, il n'en est rien.
Alors, on vient d'entendre Jean-Baptiste Prier de NetVeil System, dans tout compte fait. Ces manipulations, on les retrouve évidemment, Cyril Brosset, pendant le Black Friday. Que peut faire le consommateur?
C'est compliqué pour le consommateur parce que, effectivement, on le disait tout à l'heure, il ne sait pas quel est le prix juste des produits et les prix changent tout le temps. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est d'une part de pas se précipiter. C'est pas parce que vous avez une journée de promotion que vous retrouverez pas la promotion plus tard. Et puis de prendre le temps de comparer, c'est-à-dire la bonne vieille méthode. On va voir sur plusieurs sites, éventuellement en magasin aussi, parce que finalement vous allez peut-être trouver l'article moins cher ailleurs alors qu'il sera pas en promotion.
Le secret, c'est de suivre longtemps à l'avance les produits et de comparer le prix avant d'acheter. Faut s'armer de patience.
Oui, c'est un vrai boulot à temps plein, hein, de regarder les produits qu'on a l'intention d'acheter. Il faut regarder les prix. Mais il faudrait le faire plusieurs mois à l'avance si on veut être sûr vraiment de l'acheter au bon moment. Et encore, on n'est jamais sûr, parce que c'est ça le problème de cet abus de promotion, c'est que du coup les gens, ils n'achètent plus parce qu'ils se disent peut-être que demain je le trouverai encore moins cher ailleurs. Et du coup, il y a un effet contre-productif qui est assez déplorable.
Et j'ajoute que ça arrive tout le temps, parce que vous avez réalisé par exemple à l'UFC Que Choisir une étude au moment des soldes d'hiver, c'est il n'y a pas très longtemps, hein, c'est il y a moins d'un an, et vous montriez par exemple qu'une grande enseigne d'ameublement, Conforama pour ne pas la citer, avait passé un lave vaisselle de 329,99 à 499 la veille des soldes, pour ensuite effectuer un rabais de 40%, alors que le rabais il était de 10%. Donc ça arrive tout le temps, en permanence, et y compris chez les grandes marques. C'est ça aussi qui pose question. C'est pas simplement sur des sites marchands sur Internet. Les grandes marques physiques en magasin pratiquent aussi ces faux rabais.
Est-ce qu'on peut dire que les fausses promotions, les faux rabais, ce sont de puissants produits d'appel pour appâter le chaland?
Oui, bien sûr, ça sert vraiment à attirer l'œil, et on le voit dans le reportage de Tout Compte Fait. Mais on s'aperçoit aussi que c'est maintenant un outil quasiment incontournable. C'est-à-dire que les marchands, eux, ils regardent le prix auquel ils veulent vendre l'objet, et après ils calculent la promotion. Donc ils trouvent un prix de référence comme ils peuvent pour afficher le plus gros rabais possible. Et ça, ils le font au moment des opérations commerciales, mais ils le font tout au long de l'année. On voit bien maintenant, les prix changent tous les jours. Il y a tout le temps des promotions, et du coup, le consommateur, il est un petit peu perdu, on le comprend.
Quels sont les objets qui sont le plus vendus pendant le Black Friday?
Je pense que le high-tech va encore bien marcher. Hein. Mmh. Dès que vous voulez un téléphone ou un téléviseur, vous allez vous tourner vers les offres du Black Friday. Et pourtant, nous, on a constaté que, par exemple, sur le high-tech, là où vous avez un peu plus de chances de faire des promotions, c'est plutôt sur les tablettes tactiles ou les appareils photo, parce que c'est des produits qui sont un petit peu en perte de vitesse. Et donc, les marchands essaient de découler leur stock.
Alors, je vous propose d'écouter l'or influencé par des influenceurs à la solde des marques.
L'or, 22 ans, passe chaque jour un certain temps devant ceux qu'on appelle les influenceurs.
Ça nous sort de la routine, en fait, de la vie de tous les jours. Et puis parfois, il y a certains influenceurs qui habitent par exemple à Dubaï, donc c'est le luxe, c'est les choses en grand. Donc même nous, ça nous fait voyager, en fait.
Un jour, elle tombe sur la vidéo de cette influenceuse, qu'elle apprécie également, et qui vante les vertus d'un nouvel appareil, un aspirateur à points noirs. En quelques clics, Laure commande l'appareil.
L'appareil était à 50 euros, et après le code promo qu'elle a proposé, c'était à 35 euros, donc j'ai succombé.
Une promo très alléchante, qui est en fait une fausse bonne affaire. D'abord parce que selon elle, l'appareil ne marche pas.
Voilà, je vais l'arrêter. Pour moi, c'est quand même un prix, en fait. Pour moi, c'est un petit investissement dans un produit que je pense que j'utiliserai quotidiennement. Donc oui, j'étais déçue.
Selon nos informations, pour faire la publicité de ces fausses promos, les influenceurs toucheraient entre 400 et 3000 euros.
Julien Buget, vous pointez du doigt le rôle de ces influenceurs, on pourrait dire manipulateurs sur Internet.
C'est l'autre nœud gordien. Ma langue a fourché tout à l'heure, c'est important. On est ici à France Inter, n'est-ce pas, une radio de lettres et de connaissances. Oui, c'est effectivement ce qu'on pointe, parce que je veux dire, là on est dans les aberrations de la surconsommation aussi, et ça fait mal au cœur, parce que ces jeunes, ils sont de bonne volonté quand ils veulent acheter un produit, et ils se font refourguer, pardon, mais de la cablotte par des influenceurs qui font de l'argent sur leur dos, 400 euros pour promouvoir un produit qui est en fait un produit qui tombe en panne sitôt qu'il arrive à la maison. Enfin, je veux dire, voilà, c'est aberrant.
Cyril Brosset.
Ouais, ça c'est une technique qu'on voit se développer, c'est ce qu'on appelle du dropshipping, c'est-à-dire que vous avez des marchands ou des influenceurs français qui mettent en avant des produits en vous affichant une super promo, sauf qu'en fait, le produit, il est vendu sur un site chinois pour encore beaucoup moins cher. Et le problème, c'est que ceux qui les vendent en France, eh bien, ils peuvent pas respecter la législation française, les droits de rétractation, etc. Et en plus, ils n'hésitent pas à faire des promesses inatteignables. Par exemple, récemment, il y avait eu un soutien-gorge anti-cancer qui, en fait, valait 3 euros sur un site chinois.
Et là aussi, ça participe à un système, parce qu'on se dit, tiens, c'est pas cher, donc on l'achète. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Le produit, on a fait une enquête dans Tout Compte Fait aussi sur cette nouvelle manière de sourcer en Chine, où il n'y a plus d'intermédiaire, en fait. Et on passe de l'achat en un clic à l'usine qui fabrique en Chine directement, sans passer par les intermédiaires qu'on avait jusqu'à présent, bon, qui continuent d'exister. Mais mais ça existe aussi. Donc, c'est fabriqué dans des conditions absolument déplorables, à grande échelle. Quand ça se vend pas, c'est détruit, c'est parcyclé, et c'est de la camelote. Ça vaut rien du tout, et ça traverse l'ensemble de la planète avec les émissions de CO2 et l'impact environnemental qu'on imagine, pour au final avoir une utilisation qui est proche de zéro.
De la camelote souvent vendue cher. Vous prenez l'exemple de ces brosses à cheveux. Vous faites une expérience.
Ouais.
Expliquez-nous.
Ouais, des brosses à cheveux qui voilà, quand elles arrivent à la maison, elles marchent pas, la brosse à cheveux. Elles tombent en panne au bout de deux secondes, le plastique est défaillant, elles se branchent pas, l'appareil ne fonctionne pas. L'appareil, c'est vraiment de l'arnaque.
Heureusement, j'en ai pas besoin, moi, de brosse à cheveux. Allez, il est temps de retrouver notre camarade de Julia Foyce et sa chronique Pas son genre.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Un garçon, je suis une fille.
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon?
T'as menti?
Ah oui. Mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et j'ai un câble droit de fille, voilà!
Julia Foyce, à son genre. Ben oui.
On m'appelle la touffe.
Bonjour tout le monde. Bon, allez-y.
Alors, tandis que certains d'entre nous ne voient même pas arriver la fin du mois de novembre, d'autres comptent anxieusement les jours qui les séparent de décembre, et l'anxiété, elle est palpable dans les messages qu'ils postent sur Twitter. Plus que trois jours, c'est dur. Encouragez-moi, je serre les dents, je bande mes muscles et je résiste, et ça monte. Oh, vivement dimanche. Sauf qu'on n'est pas chez Drucker, là. On est chez les adeptes du No Nut Challenge, comme le rappelle le mot-clé qui accompagne chacun de ces messages. Vous connaissez, Ali, le Dry January Challenge? Il regroupe tous ceux qui s'engagent à ne plus boire une goutte d'alcool pendant tout le mois de janvier. Ben là, c'est pareil avec le sperme, hein, plus une goutte. Masturbation et coït prohibés du 1er au 31 novembre. Le concept existe depuis une dizaine d'années maintenant. Mais il s'est offert une belle vitrine avec les réseaux sociaux qui adorent ce genre de défis collectifs. En général, on les lance pour défendre une cause. Mais là, comment vous dire, on est plus sur un rendez-vous avec soi-même. Hein, renouer avec son corps, retrouver sa libido, reconquérir un plaisir perdu. On le sait, plus la sexualité devient mécanique, moins elle est savoureuse. Laisser un espace au manque, ça permet au désir de reprendre sa place. Et là, on flirte un peu avec l'érotisme tantrique. Minimiser le contact physique pour libérer l'imaginaire. Un pas de plus, et on plonge dans les textes sacrés du livre avec cette idée de se couper d'une réalité charnelle pour mieux s'élever vers le ciel. Sauf que, mis à part le fait qu'il faudra quand même me prouver que la masturbation est un aller simple vers l'enfer, quand la frustration, elle, vous donnerait les clés du paradis, j'aimerais aussi qu'on m'explique pourquoi, en 2019, la sexualité se pense toujours à coups d'injonction. Pourquoi on pense, on vit, on jouit toujours en termes de « il faut » ou « il ne faut pas » plutôt qu'en termes de « j'ai envie » ou pas. Le désir et le plaisir n'ont toujours rien de personnel, on en a encore à rendre des comptes à la communauté, communauté qui compare, soupèse, évalue, mesure, de la durée du coït à la taille de l'engin, tout devient l'objet de compétition. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du pigasme autour de la
pigasme
table? Pigasme. Le pigasme, ça vous parle?
Non.
Vous avez de la chance. C'était un autre de ces challenges au printemps dernier, il fallait se retenir le plus longtemps possible d'aller aux toilettes, hein, pour ressentir une forme de plaisir au moment d'uriner, si. J'ai mieux, ou pire, hein, le coconut challenge, là, ça vous dit quelque chose? Toujours pas, très bien. Alors là, c'est plutôt pour les filles, hein, puisqu'il s'agit d'épeler le mot coconut avec les hanches quand elles sont dans la position de l'Andromaque, à Califourchon, pour les non-hellénistes. Alors certes, un petit peu de débilet sur les bords, mais au moins ça ne fait de mal à personne. Ce qui est plus embêtant avec ce no-nut challenge, c'est ce qu'il y a derrière. Un rapport au sexe qui est parfois un peu le même que ce qu'on peut trouver chez les asexuels. Parmi eux, certains n'ont tout simplement aucun appétit pour la sexualité et très franchement, libre à eux. En revanche, chez d'autres, il y a cette façon de prêcher l'abstinence, de sermonner les écarts de conduite, de sacrer la virginité. On est là sur un registre puritano-moral ou religieux quand même assez clair qu'on retrouve chez les nofabs, communauté virtuelle forte aujourd'hui de 150 000 membres. Elle revendique, elle, l'arrêt total, complet, définitif de la masturbation avant, pendant, après novembre. Et se balader sur leur forum, c'est naviguer quelque part entre le mysticisme, les alcooliques anonymes et l'armée avec toute la subtilité du grognard. Pour eux, l'onanisme, c'est le mal absolu. Ils s'engagent donc à y renoncer. Ensemble, ils comptent leurs jours d'abstinence. S'ils chutent, ils demandent l'absolution. Mais plus ils tiennent, plus ils prennent du galon, devenant lieutenant puis capitaine de la non-paluche. Pour finir le coup, ils se dopent au virilisme le plus troglodyte. Un vrai mec, c'est fort. Un vrai mec, c'est costaud. Ça craque pas, ça résiste à toutes ces tentations que le diable a mis sur la route. Et au passage, on fera preuve d'une misogynie crasse, c'est toujours bon pour se défouler un peu. Alors, on ne sait pas si on est face à des hommes légèrement allumés ou totalement abrutis. En tout cas, ils sont tous convaincus, de devenir des surhommes à force de privation. Certains se promettant même la télékinésie à l'arrivée. Rien n'a jamais prouvé les vertus de l'abstinence. Mais le plus inquiétant, ça n'est pas tant le tourbillon d'idiotie dans lequel on se retrouve aspiré dès qu'on met le doigt dans cette communauté, façon de parler, C'est, il se passe quoi après? On en fait quoi de toute cette belle énergie accumulée pendant le carême de la branlette? Eh ben, j'ai une idée. Vous passez novembre, vous laissez venir décembre et vous verrez, oui. Décembre, le mois du Destroy Dick December. Défi qui consiste, lui, à se masturber tous les jours le nombre de fois correspondant au chiffre du jour. Des champions, on vous dit.
Julien Buget, vous êtes plutôt de l'équipe novembre ou décembre?
Non, mais en tout cas, il y a un truc qui raconte. Il y a un truc qui raconte l'époque dans ces idées d'abstinence. On s'arrête de boire pendant un mois, on s'arrête de cloper pendant un mois, on s'arrête de baiser pendant un mois, on s'arrête de se masturber pendant un mois. Voilà, c'est parce qu'on est aussi dans une société de l'instant où tout est possible et on est abreuvé en permanence de la surconsommation, quelle qu'elle soit, la surconsommation du corps, du plaisir, de la jouissance. C'est ce que vous disiez. Et donc le graal maintenant de la société.
Mais qui a besoin de détox, d'appuyer sur pause. Ça me pose aucun problème. C'est le côté injonction collective qui fait qu'on y reviendra toujours. Et on sera toujours infoutu de penser sa sexualité pour soi, de manière personnelle, sans se dire qu'on a des comptes à rendre à qui que ce soit.
Mais moi, je jouis et je ne m'arrête pas.
Et Julia Foch, je vous rappelle que le 31 novembre n'existe pas. Voilà.
C'est vrai?
Oui, mais ça s'arrête le 30. Rien, on ne vous l'a pas dit.
Mais non.
Bon.
Mais oh.
Et donc, j'aimerais connaître le programme de façon genre l'émission.
Et bien, c'est génial parce que, oui.
Demain à 20h.
Oui, ça va être génial. Demain à 20h. On reçoit les trois, Gabriel, Hugo et Camille de Intérieur Queer, le podcast de France Inter. Et donc, on va parler queer.
La chronique Passons genre de Julia Foy, à revoir en vidéo sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Allez, avez-vous décidé de boycotter le Black Friday ou au contraire, en profitez-vous pour acheter vos cadeaux de Noël ou vous équiper 01 45 24 7000. Malik Judy interprété Dis-moi que t'y penses.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Bonjour Molcar, et on s'intéresse aux vraies et aux fausses promotions du commerce en ligne à l'occasion de ce fameux Black Friday en partenariat avec l'émission Tout compte fait sur France 2. Muriel nous dit sur notre page Facebook, je n'achète rien au Black Friday, je suis mère de famille, en fait je ne regarde pas, je me bouche les oreilles, je vire les SMS et emails, je me désabonne des mailing lists, j'achète au sol mais rarement sur des coups de tête, je programme mes achats à l'avance, j'essaie qu'on me prenne pour une quiche le moins possible. Et puis Ludivine nous dit mon lave-linge est tombé en panne l'année dernière à cette période, ça m'a bien arrangé ce Black Friday car il y avait des promos à ce moment-là. Nous accueillons au téléphone Emery Jacquilla. Bonjour Emery Jacquilla.
Bonjour.
Vous êtes le président de la CAMIF, site de vente en ligne. Demain, votre site sera fermé, impossible d'acheter sur votre site. Vous vous tirez une balle dans le pied, Emery Jacquilla?
Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la troisième année qu'on ferme notre site pour le Black Friday, parce que au cœur de la mission de la CAMIF, qui est un vendeur en ligne d'équipement de la maison avec un parti pris sur la qualité, sur le made in France, sur le durable, au cœur de notre mission, il y a cette consommation responsable et la production locale. Et nous, il nous semble juste contradictoire, cette mission, avec ce Black Friday qui, vous l'avez dit tout au long de l'émission, n'est ni bon pour le porte-monnaie des consommateurs parce qu'on débranche leur cerveau avec ce matraquage incessant et cette injonction d'acheter ce jour-là, où en fait le consommateur ne se pose plus aucune question sur est-ce que j'en ai vraiment besoin, d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué et dans quelles conditions, et où en plus les promotions ne sont pas vraiment des vraies promotions. Vous l'avez vu avec Que Choisir, 7% de rabais en moyenne, et puis 88% des gens qui achètent par exemple un smartphone ce jour-là en ont déjà un qui marche très bien, donc ils n'en ont pas vraiment besoin. Et donc nous on dit, il y a urgence à reprendre le contrôle, reprendre la maîtrise de son pouvoir d'achat, consommer peut-être moins, mais consommer mieux. Et quand on consomme, autant que ça serve à l'économie locale, parce que quand on voit à qui profite le crime, Amazon, vous l'avez cité aussi, Google, etc. Les requêtes sur Internet ce jour-là sont juste énormes. Donc tous ces acteurs américains gagnent beaucoup d'argent ce jour-là, ça c'est certain. Par contre, est-ce que c'est bon pour l'économie française? Certainement pas. Les gens achètent de la high-tech, du textile, ce ne sont pas des emplois en France. Donc nous, il nous semble important de faire passer le message et d'interpeller les citoyens, les consommateurs et nos propres collaborateurs sur le fait que de toute façon, on est arrivé au bout d'un modèle. Il y a eu en 2017, et c'est moi ce qui m'a, à titre personnel, interpellé, c'est qu'en 2017, il y a eu l'appel de 15 000 scientifiques qui ont dit il y a urgence à ce que l'on change nos modes de consommation, de production, sinon on va tous collectivement dans le mur. Et je pense que cette prise de conscience, on l'a tous aujourd'hui collectivement, que nos modes de consommation, de production, ils sont directement liés au dérèglement climatique, aux enjeux de la biodiversité et aux enjeux sociaux associés. Donc, il faut changer et à beaucoup de plaisir à retrouver de la maîtrise de son pouvoir d'achat, parce qu'on peut, et c'est ce qu'on va faire à la CAMIF demain, quand le site sera fermé, on organise des ateliers pour montrer les alternatives positives à la surconsommation. On peut réparer, on peut faire soi-même, on peut faire sa lessive soi-même, etc. Ouais.
Cyril Brosset de l'UFC Que Choisir, ça vous semble une démarche sincère, la démarche de la CAMIF?
Oui, ça fait plusieurs années qu'ils le font et ça va plutôt dans le bon sens. Nous, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les consommateurs, on sent bien ce début de prise de conscience. Ils nous demandent, nous, des tests sur la réparabilité des appareils, sur la consommation électrique, sur les émissions de CO2, les produits toxiques, etc. Et d'ailleurs, on accompagne ce mouvement. Et je peux vous dire que dans le numéro de janvier, par exemple, de Que Choisir, il y aura un test de réparabilité. C'est ce qu'on n'avait jamais fait. On a démonté des machines à laver et on a changé une pièce. On les a remontées pour voir si c'était facile ou pas.
Nathalie Damery de l'Obsoco.
Oui, ce qui est très intéressant dans la démarche de la CAMIF et des autres acteurs du commerce qui sont engagés dans cette résistance, c'est que en parallèle ils proposent autre chose, ils proposent d'autres modèles. Bon, la réparation, on en a parlé, mais des ateliers. Et il s'agit pas simplement d'une prise de conscience, mais c'est la possibilité de redonner à chacun des consommateurs, la possibilité concrète réelle de faire autrement.
Emery Jacquilla, est-ce que vous soutenez l'amendement au projet de loi anti-gaspillage qui propose donc d'intégrer les publicités du Black Friday aux pratiques commerciales agressives, passibles d'une peine d'emprisonnement de 2 ans et d'une amende maximum de 300 000 euros?
Alors, c'était un amendement qui a été proposé par Delphine Bateau dans le cadre de du projet de loi anti-gaspillage. Nous, on soutient parce que on pense qu'on va trop loin avec le Black Friday. Ce Black Friday n'a aucun sens. En France, absolument aucun sens. Alors peut-être que aux États-Unis et pour Amazon, le lendemain de fête de la dinde, puisque c'est Thanksgiving, ça peut avoir du sens. Mais objectivement, c'est nous les dindons de la farce aujourd'hui, hein, parce que c'est un fake Friday. Et donc oui, cette collision là de tous les acteurs qui vont vous obliger à acheter, en gros, hein, elle est pas saine et elle est pas normale. Donc moi, je pense que je soutiens cet amendement. Ça serait bien que ça soit plus raisonnable, parce que ça va pas dans le bon sens.
Merci beaucoup, Emery Jacquia. Cyril Brosset, est-ce qu'il faut faire confiance à des sites comme Cross Shopper, qui est un site, un comparateur de prix collaboratif? Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de site pour essayer de débusquer les fausses et les bonnes promotions pendant ce Black Friday?
Tout ce qui est comparateur en général, faut y faire attention. Je connais pas celui-là particulièrement, j'ai pas étudié, mais faut y faire attention, parce que souvent il y a des liens quand même avec les marchands, donc leur but c'est de mettre en avant certains marchands plutôt que d'autres, et pas forcément de donner l'information la plus fiable possible aux consommateurs. Donc le consommateur, il a quand même intérêt à prendre son bâton de pèlerin et aller voir sur les différents sites
oui, lequel est le moins cher. Shopper, si je me souviens bien, c'est des particuliers qui cherchent pour d'autres, donc il y a moindre risque d'informations fausses.
Alors ce site n'est visiblement pas payé par les sites marchands pour les faire figurer dans leur page. Ce genre de site gagne de l'argent tout de même quand les visiteurs font leurs achats sur les sites dont ils sont partenaires. Pour résumer, là on arrive presque à la fin de cette émission, quels sont vos conseils pour ceux qui seront tout de même tentés par ce Black Friday? Cyril Brosset, conseil demain, si on n'a pas eu le temps de traquer les prix quelques semaines auparavant, comment on fait?
Eh ben, déjà, pas de panique. Si vous voyez une bonne affaire, regardez, comparez et éventuellement achetez si vous en avez vraiment besoin. Si vous laissez passer l'affaire, eh ben, c'est pas grave. Vous en aurez une autre bonne, certainement, dans 2 ou 3 jours.
Nathalie Damery.
Moi, j'ai à peine mieux à dire. Le conseil, c'est effectivement de rester dans l'air du temps et essayer de ralentir un peu les choses.
Réfléchir à deux fois, c'est ce que vous disiez, réfléchir à deux fois avant de pratiquer un acte d'achat, voilà, être sûr qu'on a besoin du deuxième iPhone, du troisième micro-ondes, du quatrième sac à main, c'est ça véritablement qui va changer la donne, parce que c'est ce que disait très bien le patron de la Camille, voilà, qui fait franchement qui a repositionné le groupe sur une façon de faire plus écolo, plus vertueuse, donc bravo à lui de ce point de vue-là. La Camif, groupe ancestral, hein, qui existe depuis des années, qui lui a redonné une nouvelle vie d'une certaine manière. On est des acteurs de notre propre consommation et il faut bien avoir ça en tête quand on consomme, quand on achète, ça a des répercussions, parfois à côté de chez soi, mais parfois à l'autre bout de la planète. Voilà, donc ayons ça en tête.
Votre regard, Julia Feuille, sur ce Black Friday.
J'ai un problème avec les dates, hein, puisque novembre comptait 31 jours, donc j'ai un vrai souci sur les soldes, c'est que je ne sais jamais quand c'est, mais jamais, je vous promets. Et en fait, à chaque fois, je me dis merde, c'est les soldes. Donc je suis à la rue.
Allez, on a évoqué les pièges des achats en ligne au moment du Black Friday. Il existe également des pièges dans les supermarchés révélés par le site de l'association Foodwatch. Comme chaque année, décembre sera propice aux arnaques sur l'étiquette de certains produits alimentaires. Bonjour Camille Dorioz.
Bonjour.
Vous êtes responsable des campagnes de l'association Foodwatch. C'est quoi Foodwatch en quelques mots?
Alors Foodwatch, c'est une association de défense du consommateur qui travaille maintenant depuis plus de 5 ans en France et qui travaille entre autres sur cette campagne Arnaque sur l'étiquette, qui en fait est là pour dévoiler un peu les fausses promesses que font les industriels à l'avant des produits et des paquets, et qui, comme vous l'avez dit, sont nombreuses et font légion dans les supermarchés à l'approche de Noël.
Alors vous proposez un calendrier du vent sur votre site. À l'approche de Noël, les rayons supermarchés débordent de produits parés de leurs plus beaux atours. Et vous écrivez sur votre site qu'il s'agit de produits ultra transformés qui se font passer pour des produits traditionnels. On peut le dire, c'est du pur bluff.
Alors, c'est du bluff, on le voit, on a plein d'exemples, donc il y a 24 exemples dans notre calendrier qui vont être dévoilés tous les matins, comme un calendrier de l'Avent, tous les matins on pourra trouver une nouvelle arnaque sur l'étiquette sur notre site, mais je peux déjà vous en donner quelques-unes.
Mais attends, juste avant, il existe plusieurs types d'arnaques. L'arnaque à l'origine, l'arnaque aux additifs, expliquez-nous un petit peu.
Oui, bien sûr, il y a plusieurs types de ce que nous on appelle des arnaques sur l'étiquette. Par exemple, avoir des arnaques, une qui est assez connue, qui va être l'arnaque à tout ce qui est à ce qu'on appelle l'arnaque à l'origine ou au made in France. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 75% des Français qui sont prêts à mettre plus d'argent sur la table pour acheter des produits qui sont d'origine française. Évidemment, une partie des industriels va profiter en fait de cet engouement autour du made in France pour tenter de mettre un petit drapeau français, des couleurs bleu, blanc, rouge. On va avoir par exemple une petite carte de France, du cuisiné en France, du emballé en France, et pour faire croire en fait qu'on est sur du produit made in France, mais en fait les ingrédients sont très exotiques et viennent d'un peu partout à travers la planète. On va aussi avoir, comme vous l'avez déjà cité, des produits traditionnels qui vont marquer qu'ils sont authentiques, qui respectent une tradition, et en fait on va retrouver par exemple des additifs controversés à l'intérieur comme les nitrites de sodium. On va avoir des arnaques qui sont plus au visuel, où on va essayer de, par exemple, de vous vendre, de vous faire une promesse sur ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, on va vous mettre en avant un certain type de légumes ou de produits chic et chers qu'on va trouver dedans. Et en fait, ils sont en très très petite quantité à l'intérieur. C'est vraiment là juste pour gonfler le prix. Et les industriels, en tout cas en partie, certains ne tiennent pas leurs promesses. Et après, derrière, un qui, on va dire, mobilise quand même beaucoup aussi les consommateurs, c'est tout ce qui est la présence d'huile de palme dans des produits où on s'y attend pas, dans des produits chics et chers, qui aussi, eux, se vendent de tradition et on trouve de l'huile de palme, ou des fois même se vantent d'être bon pour l'environnement tout en mettant de l'huile de palme à l'intérieur.
Alors, Le Parisien révèle ce matin en exclusivité trois produits que vous avez dans le viseur à Foodwatch. Vous pouvez les citer
Oui, bien sûr. C'est trois produits qui sont en fait des produits. Là, on est plus sur des arnaques au prix, c'est-à-dire que on va gonfler le prix du produit. Le meilleur exemple, c'est la confiture de figues Laberry, qui où il est marqué dessus pur foie gras et qui est positionné dans le rayon justement à côté des foie gras. Et mais malgré que les ingrédients soient identiques à une confiture très standard qu'on trouve dans le rayon, ils arrivent à nous la vendre quand même 10 fois plus cher parce que c'est en petit, parce que ça c'est chic, parce que c'est à côté du foie gras. Ils en profitent pour gonfler les prix, et ça, c'est quand même une belle arnaque sur l'étiquette. C'est vraiment du bluff de la part de Laberry. Il suffit aux consommateurs de se déplacer dans le rayon confiture pour se rendre compte de la différence de prix énorme entre ce produit et les autres produits de la même gamme.
Il y a le suprême de volaille au mori de chez Liebig, par exemple, également.
Et alors là, pareil, on est vraiment sur une arnaque au visuel. Le suprême de volaille au mori, on voit des morilles à l'avant, on voit marqué volaille en très gros, et en fait, quand on regarde, il y a à peine 2% de volaille, il y a 0,9% de morilles, et finalement, à l'intérieur, il y a surtout des légumes, bon, c'est normal, c'est une soupe, hein, mais des légumes, plutôt des chouraves, plutôt du pain, des choses qui ne sont pas mises en avant sur le produit. Et là encore, quand on regarde la gamme de soupe, c'est plutôt une soupe qui est plutôt chère par rapport à sa gamme, même si en fait finalement les ingrédients chers sont vraiment en très petite quantité à l'intérieur.
Troisième produit.
Le troisième produit, c'était c'était Arenka.
Oui, les perles 2 de hareng. Hein.
Les perles de hareng Arenka, qui sont en fait un produit qu'on a retrouvé dans le magasin à côté des œufs de l'ombre. En fait, le placement du produit est très important dans le cas de cette arnaque sur l'étiquette. C'est que, en fait, comme on l'a vu dans le rayon à côté des œufs de l'ombre, c'est noir, c'est des petites billes qui ressemblent à des œufs de poisson. C'est très compliqué de trouver l'information sur le produit. Et en fait, ce sont pas des œufs de poisson, ce sont des billes de hareng fumé qui sont vendues quand même 100 euros le kilo. On est loin du prix du hareng fumé en fait au kilo, même s'il y a beaucoup de transformations, on est quand même sur un produit qui se fait passer pour un autre.
Merci beaucoup Camille Doriot de Foodwatch. On peut retrouver votre calendrier du vent sur votre site entre le 1er et le 24 décembre. Merci beaucoup Nathalie Damery de l'Obsoco. On retrouve d'ailleurs Philippe Mouati de l'Obsoco ce soir chez notre amie Fabienne Synthèse dans le téléphone sonne consacré au Black Friday. Merci beaucoup Cyril Brosset de l'UFC Que Choisir, et merci Julien Bugier.
Merci.
Tout compte fait, c'est samedi à 14h sur France 2. Le thème du second sujet,
c'est sur la dictature des avis qui touchent les restaurateurs, les services, les produits. Voilà, la dictature des avis et les faux avis aussi, parce que là aussi il y a beaucoup de choses à dire.
Merci à Rémi Sissiaga à la technique. Demain dans la bande de Grand-Main vous fasse, Maison et Loisirs vous délivrera des conseils en matière de jardinage, décoration, cuisine et voyage. Pourquoi vous regardez comme ça, Julia? Standard ouvert. Voilà, vous souriez méchamment. Standard ouvert demain au 01 45 24 7000.
La parole à faites homme. Soignez-le.